bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Il est 20h29, donc vous assistez et vous êtes sur l'émission Prophétie. Émission donc sur les ondes de Pastel FM 99.4, 0320. Je rappellerai les coordonnées après. Techniquement, c'est bon, Hamza, il n'y a pas de problème. On va reprendre l'émission, Inch'Allah, maintenant. Avec Hassan et Kyosan, salam alaikum.
Salam alaikum.
Aujourd'hui on parlera, Inch'Allah, de l'éducation, comme on avait pu commencer la dernière fois. Mais avant tout, peut-être rappeler, il y a eu une émission précédente juste avant, enfin vous avez pu entendre un peu ce qui s'est passé à la FAL à Roubaix, où la CRI, l'association donc la CRI a fait une opération testing. Car si on rappelle vite fait le contexte, la FAL dans son règlement intérieur donc a privé effectivement les femmes portant un couvre-chef, donc un voile, d'accéder à ses locaux, en sachant que la Ligue des droits de l'homme y siège et que beaucoup de personnes en difficulté par rapport aux droits de l'homme viennent sur ces lieux. Donc c'est rue de Lille à Roubaix. Et actuellement ils sont complètement discriminés, n'ont plus le droit d'y entrer. Donc il y a eu une opération testing qui s'est fait mercredi dernier avec huissier. Donc il y a bien constaté effectivement que les femmes portant le voile ne pouvaient pas entrer. Enfin, elles peuvent entrer si elles retirent leur voile. La Ligue des droits de l'homme a bien dénoncé cet état de fait, en rappelant que la loi du 2004 s'adresse simplement aux élèves qui vont dans les lycées, collèges, dans les écoles, et là l'interdiction du port du voile se fait à ce niveau là. Je veux savoir un peu ce que toi tu en penses.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. C'est pas la première fois que ce genre de discrimination a lieu en France, en dehors bien entendu des collèges, des lycées. Je me souviens une fois j'étais à Bordeaux en pleine affaire du foulard, vraiment quand elle avait atteint son sommet, son pic. Et c'était une banque, je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire de la pub, qui avait elle aussi affiché sur sa vitrine l'interdiction du port du voile à l'intérieur de ses locaux, au moins là-bas déjà à Bordeaux. Alors que cette banque a des clientes musulmanes soucieuses de respecter cette tenue vestimentaire islamique. Et il est évident que ce qui cause problème, ce ne sont pas les règlements intérieurs de certains organismes publics ou privés. Ce qui pose problème, c'est cette islamophobie ambiante qui règne. Parce que même si, Dieu merci, la majorité des lieux publics sont encore accessible, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Ce qui aujourd'hui est devenu monnaie courante, c'est le regard agressif des gens qui est jeté sur qui ? Sur ces jeunes filles ou ces femmes à qui l'on doit du respect parce que elles sont entières, elles ne sont pas des musulmanes qui cherchent à ne pas être en public ce qu'elles ne sont pas. Si elles ont décidé du fond d'elles-mêmes d'être pratiquantes jusqu'à porter cette tenue vestimentaire, on leur doit du respect parce que au moins elles sont cohérentes avec elles-mêmes et on doit respecter celui qui a des convictions. Donc moi ce qui m'agace c'est au quotidien. Hein, les femmes sont agressées. Je l'ai vu pas plus tard qu'il y a trois jours, j'étais avec ma femme, je suis sorti avec elle pour faire de la marche, et j'observais les voitures qui passaient devant nous. Et je voyais le regard des gens qui avaient dans la voiture, qui se dirigeaient toujours vers qui ? Vers mon épouse, que j'ai fait marcher un peu devant moi. C'est des regards méchants, hein. Vous voyez sur les traits de visage des personnes, les voitures s'arrêtaient, quel point c'était de l'agression. Donc c'est l'islamophobie qui règne partout. C'est pas écrit toujours hein, dans, sur noir sur blanc, sur des pas, comme ici c'est le cas dans le règlement intérieur, mais malheureusement c'est inscrit dans les inconscients de nos concitoyens, et parfois cet inconscient s'exprime verbalement, physiquement ou avec un regard. Donc à mon avis il faut régler le problème à la base, hein, qui est revoir cette politique qui s'est accentuée à partir de 2001. Elle existait déjà avant, puisque ça a commencé en 89. J'ai même envie de vous dire que ça a commencé en 79. Qui sait, peut-être que ça a commencé aussi en 62. Bref, on peut toujours trouver les racines hein, de cette islamophobie dans notre histoire et notre présent. Donc, il faudrait remonter justement à la source. C'est quoi le problème? Le problème, c'est la présence en France de musulmans pratiquant différents degrés, différents niveaux, qui ne se considèrent plus comme des gens de passage. Parce que nos mères, quand elles sont arrivées en France dans les années 60-70, avec leur tenue vestimentaire qui n'était pas en adéquation avec la mode de l'époque, ne dérangeait personne. Hein? Pourquoi? Parce que on sait que ces musulmans sont des étrangers de passage. En plus, ils vivaient souvent en périphérie et on ne les croisait pas toujours. Maintenant, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à 2, 3, 4e génération, voire à la 5e, des gens qui sont intégrés, des gens qui sont même, je veux dire franchement, assimilés au niveau culturel, ce qui est tout à fait logique et normal en soi, mais avec une identité spirituelle, philosophique, qui n'est pas celle de la majorité, et ils ne sont pas une exception, hein, puisqu'on a beaucoup de minorités intellectuelles. Ce qui fait le charme de la France, justement, c'est ce droit à la différence et cette liberté hein, qu'a l'homme d'être soi-même. Et il y a une réaction farouche, une réaction qui exprime une certaine peur. Hein. Vous êtes la 5e colonne, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes différent de nous, et en plus vous n'êtes pas des citoyens à part entière. Et il faut absolument qu'on trouve une solution. Et la solution qui a été trouvée, malheureusement, au lieu de chercher à comprendre l'autre, de discuter avec l'autre pour voir qui il est, pour le respecter avec sa différence, on l'a tout de suite incriminé. On l'a mis dans le box des accusés, et puis on lui a collé toute une série de méfaits qu'il n'a jamais commis, et puis on l'a condamné. Musulman aujourd'hui soucieux de pratiquer sa religion dans l'espace républicain, est un intégriste, un fondamentaliste, et c'est devenu épidermique. On ne supporte plus de le voir. Hein? C'est pas de l'entendre, mais c'est juste de le voir. Hein? Cette femme qui va rentrer dans la falle, si elle enlève son voile, il n'y a pas de problème, et encore, je me pose des questions s'il n'y a pas des problèmes sous-jacents de xénophobie, de racisme, parce que justement, elle est entre guillemets d'une origine différente. Hein? Peut-être que cette islamophobie exacerbée n'est que la partie visible de l'iceberg qui cache un racisme profond, latent, qui est peut-être le fruit d'un héritage ou, c'est encore beaucoup plus grave, le fruit d'une conviction. Alors, cette femme, si elle garde son voile, elle est quoi? Elle est à éliminer. Hein? Parce que le fait de lui retirer ce qu'elle est, c'est l'éliminer, c'est la tuer. Hein? C'est la faire disparaître. C'est lui demander de ne plus être entière, de ne plus être elle-même. Et à mon avis, c'est un crime. C'est un crime. Il faut voler au secours de qui? De l'opprimé, parce qu'elle subit une oppression terrible dans les règles de l'art, de notre droit. Hein? Ce qui a été fait, donc ce testing, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, il faut laisser la justice s'exprimer. Et il faut avoir confiance en notre justice, parce que nous sommes dans un pays de droit. nous avons des droits et des devoirs, bien entendu, et je pense que ça se terminera bien avec quoi ? Avec une condamnation de la FAL qui devra revenir sur son règlement intérieur, et la FAL verra qu'elle continuera à vivre, qu'elle ça sera pas la fin du monde pour elle si, comme c'était déjà le cas avant ce règlement intérieur, des femmes entrent avec leur voile. Je vois pas, j'ai pas assisté au débat du conseil d'administration qui a pris cette décision d'interdiction, je vois pas quels sont leurs arguments.
Bien sûr. Et le pire, c'est que c'est presque à l'unanimité sur 15 membres, 14 ont voté pour,
tout à fait.
En définissant différents contours de la laïcité, comme eux le comprennent. La laïcité serait faire en sorte que les femmes qui portent le voile, qui seraient porte-drapeau, serait une atteinte, en tout cas, à leur philosophie, en tout cas à leur neutralité dite de la laïcité. Mais ce qu'on peut relever en plus, c'est que des opérations comme celle-là, ça existe pratiquement tous les jours. Dans toutes les écoles, des mamans sont interdites, d'être parents d'élèves, de participer aux sorties avec les enfants quand elles accompagnent. Ça arrive souvent en primaire, où on demande aux mamans de participer aux différentes sorties. Et ça arrive. Alors quand on ne connaît pas la loi, qu'on ne sait pas saisir la halle, donc ça passe au travers. Alors c'est vrai, quand on saisit la halle se saisit en général de ces questions et répond favorablement, parce que la loi est la loi, donc il n'y a pas de difficulté à ça. Et pourtant, certaines personnes résistent au nom de la laïcité pour refuser des mamans ou des élèves. C'est arrivé aussi dans une faculté très récemment. Où un professeur a refusé deux élèves qui portaient le voile et qui dit oui, je connais la loi, mais ça rentre pas dans mon critère. Je me mets hors la loi et je ne veux plus que vous dans ma classe. Donc alors la halle des saisies, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, le mal est fait, et les élèves vont rater leur scolarité, quoi. Et c'est ça le gros problème.
Pire que la scolarité encore, c'est quoi ? C'est la déception de cette étudiante qui croyait vraiment en valeur de liberté, d'égalité, et ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire des gens qui vont s'auto-marginaliser et qui vont rejeter leur société.
Alors moi j'avais une question à vous poser dans ce sens-là. Est-ce que les musulmans ne sont pas en train de prendre, les Français de confession musulmane ne sont pas en train de prendre un virage extrêmement symbolique dans la non-acceptation et dans l'affirmation du fait de se dire aujourd'hui je ne me laisse plus faire? Ça a été vrai pour nos parents pendant un demi-siècle, mais aujourd'hui les choses changent, les condamnations tombent et la loi fait droit.
Tout à fait, c'est la preuve de la maturité de la communauté française musulmane qui montre à travers ce genre d'action qu'elle est intégrée. Voilà, qu'elle est intégrée, qu'elle sait exprimer son désaccord de manière civilisationnelle. Voilà. On ne va pas jusqu'à faire comme nos concitoyens paysans, hein, qui ramènent du fumier, qui vident le fumier aux portes des préfectures. D'ailleurs, on n'a pas besoin, on se fera attendre de manière beaucoup plus rapide et plus sage à travers des actions comme celle-ci. Mais il ne faut pas rester d'éternelles victimes. Hein. Je pense que on est des citoyens respectables et il faut se faire respecter. Là où on est, à travers quoi ? À travers les discussions, à travers le dialogue, à travers l'échange. Et puis si tout cela ne porte pas ses fruits, à ce moment-là, effectivement, il faut passer au stade supérieur qui est faire respecter ses droits par le droit lui-même. Donc alhamdoulilah, effectivement, on va vers cette culture, cette manière de penser, de réagir, qui est la seule d'ailleurs. Il n'y en a pas d'autres.
La différence, c'est que par rapport à il y a quelques années aujourd'hui, c'est vrai que la xénophobie, bon, c'est bien, il faut l'exprimer comme ça, xénophobie et islamophobie, comment dire, se dit et se dévoile au grand jour, il n'y a pas de difficulté. Récemment, des députés, il y a eu une proposition de loi pour interdire le port du voile dans la rue pour les femmes. Donc il y a quand même 50 à 60 députés, si je m'abuse, Hamza.
Oui, 60, oui.
60 députés qui ont voté, enfin qui ont signé cet amendement. Bon, je sais pas si la loi est passée, je sais même pas si elle a été présentée. Mais c'est maintenant, enfin, on s'exprime de plus en plus et on dit, ben voilà, je suis islamophobe et je veux plus voir ça dans mes villes et dans mes rues. Et...
Tout à fait. Dont le député Marc Philippe Daubresse, qui est du Nord, qui est connu et qui, à la grande surprise de beaucoup de personnes vivant dans le nord de la France, a signé ce projet. Mais apparemment, de nombreux députés se sont retirés et ont retiré leur nom de ce projet de loi, qui était un projet de loi farfelu où on mentionnait que les voiles étaient interdits, sauf le jour du tournage ou le jour d'un carnaval, ce qui quand même rabaisse le niveau intellectuel de réflexion. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas d'actualité, il est toujours bon d'aller tirer sur les ambulances. Il y a Robert Redeker qui, de par sa médiocrité et son anonymat, s'est rendu célèbre en insultant l'islam et les musulmans. Donc c'est aussi l'occasion pour un ou deux députés de se faire la publicité gratuitement, en insultant et en étant dans la violence et dans la confrontation.
Barakallahu fik Hamza. On va revenir à un autre sujet. On est bien sur la prophétie de l'entraide de l'actualité. On revient sur justement ces différentes thématiques avec nos différents intervenants, dont Hassan et Kusen ce soir. Donc on va traiter, Inch'Allah, de l'éducation.
Tout à fait, l'éducation et en particulier l'éducation des enfants.
Des enfants, d'accord.
Qui est un thème qui est central, qui doit être central pour tous les parents, hein, puisque nous sommes responsables. Hein. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'est une parabole, c'est une image, mais nous sommes tous des bergers. Responsables de quoi, de qui, de notre troupeau. Donc nous avons un troupeau qui est notre famille, nos épouses, nos enfants, sont sous notre responsabilité, nous les chefs de famille. Et si le berger dort, il peut perdre des moutons, il y a des loups. Ou si le berger ne va pas les faire paître où il se doit, ces moutons ne vont pas grandir comme il se doit. Donc c'est une responsabilité et personne ne doit s'excuser ou se débiner. Surtout le premier responsable ne doit en aucun cas jeter l'éponge et dire « moi je démissionne ». Il n'y a pas de démission dans ce domaine parce qu'on ne joue pas avec la vie des autres. Nos enfants sont un dépôt, une amana, jusqu'à ce qu'ils soient mûrs, matures, responsables. Tant qu'ils sont sous notre responsabilité, nous n'avons pas le droit de faire d'eux ce que l'on veut. Nous devons les accompagner, pourquoi ? Pour qu'ils soient des êtres humains équilibrés, des êtres humains épanouis. Leur bonheur sur Terre dépend de notre capacité de peser justement cette notion de responsabilité. Plus elle a d'importance à nos yeux, plus on sent le poids de cette responsabilité sur nos épaules, plus on va s'atteler à assumer la responsabilité. Ici, c'est vraiment quelque chose de secondaire chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des enfants, on n'assume pas, et après, on crée des problèmes à nos enfants eux-mêmes, les pauvres, d'accord, qui n'auront pas reçu toute la nourriture qu'il faut pour justement être en bonne santé, d'accord. Les parents ont été avares d'enseignement, d'accompagnement. Ils ont été n'ont pas été généreux quand il le fallait, de sentiments, de tendresse, d'affection. Et ça donne quoi comme résultat ? Ça donne des enfants qui souffrent. Le problème, c'est qu'après, ces enfants qui vont avoir aussi des enfants qui seront un jour responsables, vont reproduire le même genre. Et ça s'empire, ça s'aggrave de génération en génération.
Et quand tu dis, au niveau des enfants, on ne doit pas en faire ce qu'on veut, mais on doit les accompagner. C'est hyper important, parce que souvent, il y a le sentiment, tu dis, c'est une amana, le fait d'avoir les enfants, c'est une responsabilité de les avoir, c'est un dépôt. Souvent, chez beaucoup de parents, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que les enfants nous appartiennent et on en fait ce qu'on veut. Et la notion d'accompagnement, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent, ça c'est vraiment...
Tout à fait, ça c'est un gros problème chez les parents. Ils pensent que leurs enfants sont une patte, d'accord, qu'ils ont pétri, et puis ils peuvent la manipuler comme ils veulent et en faire ce qu'ils veulent. C'est pas vrai. On a affaire à des êtres humains à part entière, c'est-à-dire qui agissent et qui réagissent. Et la chose la plus importante pour éduquer et qu'on doit comprendre, c'est justement que nos enfants, d'accord, ne sont pas des objets. Nos enfants sont des êtres vivants. Et on doit respecter justement la vie de l'autre. On ne doit pas les étouffer, on ne doit pas tuer en eux des choses qui sont fondamentales sous prétexte qu'on pense que ça, c'est secondaire ou c'est pas important. Il y a beaucoup de parents qui, par souci, par volonté de protéger leur enfant, les étouffent. Les empêchent de respirer. Si bien que ces enfants grandissent et avec des handicaps. Des handicaps au niveau intellectuel, au niveau comportement, au niveau même psychologique, au niveau des émotions. Pourquoi ? Parce qu'on pense que, justement, les enfants sont quoi ? Sont pas des êtres vivants à part entière.
Quand tu dis étouffé, des enfants en bas âge, même quand ils grandissent peut-être au niveau de l'adolescence, mais ça voudrait dire quoi finalement ? Les enfants, on les laisse... Donc on accompagne, on cadre, mais le fait que ils vont s'orienter eux-mêmes, est-ce qu'il faut les laisser justement vivre cette liberté et être le plus loin possible ? Ça dépend quel âge, comment, enfin bref...
Tout à fait, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Le danger, les extrêmes sont pas bons. Il faut toujours essayer de tendre vers quoi ? Vers le juste milieu, vers l'équilibre. Donc on a un extrême qui justement étouffe l'enfant, qui l'empêche d'être lui-même, parce que chaque enfant est prédisposé à être quelqu'un de particulier. Nos enfants ne sont pas des clones. D'accord ? On en fait un, et puis le deuxième, bon, c'est la même chose. Non,
ils sont vraiment tous différents. Oui,
chaque enfant est différent, et chaque enfant est prédestiné à quelque chose de différent de l'autre. Si on n'est pas conscient de ça, on empêche l'enfant de vivre. Il va vivre dans certaines choses, et d'autres choses, on les aura tuées. Dès le plus jeune âge. Et puis il y a l'autre extrême qui ne calcule rien du tout. L'enfant c'est quoi ? C'est il est né responsable, libre. Il a tous les droits, mais il n'a aucun devoir. Donc le juste milieu, l'équilibre, et on ne pourra y accéder qu'avec justement des connaissances et de l'intelligence. Alors l'accompagnement dans l'éducation, il est fondamental. Beaucoup de parents pensent que parce qu'ils ont décidé de ceci et cela, ça va se réaliser. Non. Il faut être très souple. Il faut être capable de quoi ? De s'adapter. Il faut être capable de changer, d'évoluer, de se remettre en question. Il faut être capable de, en fonction justement de l'évolution de l'enfant, d'évoluer soi-même. En fait, il ne faut pas croire que notre rôle est uniquement d'éduquer nos enfants. Notre rôle est de nous éduquer nous-mêmes.
Mais en tant que parents, oui.
En tant que parents, et de ne jamais cesser de nous éduquer. C'est quoi l'éducation ? C'est cette capacité qu'a l'être humain d'évoluer, de tendre vers le positif. Donc, les parents ne doivent pas être figés. Ils ne doivent pas être enfermés dans des acquis ou des vérités indiscutables. Il faut être capable de quoi ? De s'adapter, d'évoluer, de changer, pour justement permettre à cet enfant lui-même d'évoluer, de changer, de s'adapter. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande, c'est d'évoluer, de changer. L'éducation, c'est l'histoire de quoi ? De toute une vie. Ça ne s'arrête pas à un âge ou à un milieu ou à des circonstances. On change en permanence.
C'est vrai que je voudrais peut-être rajouter une chose avant la pause. Pour beaucoup de parents, en tout cas, éduquer, ça veut dire souvent quand on ce qu'il nous envoie, c'est mon enfant ne manque de rien. Et souvent, ça se limite à ça. Donc, il y a tout l'épanouissement culturel, et dans la culture, il y a effectivement le religieux. On est musulman, on parle d'éducation aujourd'hui, d'éducation pour les enfants, et le prophète a été le plus grand éducateur.
Tout à fait.
On en parlera, Inch'Allah, après. Mais souvent, ça se limite aujourd'hui dans cette société matérialiste. C'est ça, c'est même pas rendre autonome un enfant et faire en sorte qu'il apprenne un métier ou quoi que ce soit. C'est le fait de le nourrir, l'habiller, qu'il ne manque de rien et que la force publique, l'éducation internationale pourvoit à tout le reste. Et aujourd'hui, c'est un grand débat, et pour ceux qui travaillent en tout cas des zones sensibles, comme à Roubaix, Tourcoing ou d'autres villes, c'est vraiment la problématique que nous, on peut avoir en tout cas avec les parents. En disant, moi j'ai fait le maximum, moi j'ai fait mon travail, le reste, c'est à vous de le faire.
C'est décharge de leur responsabilité. Moi, j'ai assumé ma responsabilité matérielle, donc je n'ai plus de reproches à recevoir de quiconque. En vérité, le fait que la plupart des parents assument déjà cette responsabilité, c'est pas mal. Hein, parce que
oui, bien sûr.
Ça fait partie de leur devoir et de leur responsabilité. Parce qu'il y a certains, malheureusement, même dans ce domaine, qui démissionnent. Mmh. D'accord ? Ou ils le font mal. Hein, mon enfant manque de rien. En fait, il a trop. Ou ce qu'il a, c'est parce qu'il fallait. Je veux dire, même au niveau matériel, on doit le rapporter de manière intelligente. On ne doit pas tomber non plus dans les excès. Donc ça, c'est un premier pas. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que pour nous, citoyens d'Occident, donc les pays riches, à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Hein. On prend soin de nos enfants, on assume nos devoirs matériels vis-à-vis de nos enfants. Et effectivement, dans ce domaine, le travail est plus ou moins bien fait, avec bien entendu toujours des excès dans certains domaines. Mais c'est pas le côté le plus difficile dans l'éducation. J'ai envie de dire c'est le côté le plus simple, puisque il n'y a aucun parent normalement constitué qui va regarder ses enfants mourir de faim alors qu'il a les moyens de les nourrir, ou qui va les laisser non vêtus alors qu'il a le moyen de les vêtir, ou qui ne va pas les mettre dans un milieu... Non, ça, pas besoin d'insister, quoique il y a quand même des règles à rappeler, des évidences à éclaircir, mais le problème, c'est notre manque de maturité dans les autres domaines de l'éducation. Hein, l'éducation spirituelle, intellectuelle, psychologique, etc.
Ah, Hassan, j'en profite, je t'interpelle sur un sujet extrêmement important. J'ai tenu moi-même des propos qui ont défrayé la chronique durant le mois de Ramadan sur les ondes de Pastel FM sur la responsabilité des parents. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les frères, on en a parlé sur le pour ou contre mes propos. J'en assume les conséquences. J'ai violemment mis en responsabilité certains parents face au comportement gravissime de certains de leurs enfants. Alors, l'éternel débat. Est-ce qu'il est légitime pour des musulmans de se dire que certains parents, et je ne les condamne pas, parce que c'est leur condition sociale qui fait que certains parents sont venus dans les années 50 en France, originaires d'une paysannerie ou de régions montagneuses éloignées, où ils étaient dépourvus d'éducation, comme on la détermine aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment des gens qui viennent des montagnes, des prairies, du Maghreb, etc. C'est tout à fait respectable, mais ça a apporté énormément de complications. Alors est-ce que c'est légitime en tant que musulman de dire il ne faut pas leur en vouloir parce que...
À mon avis, la problématique de l'éducation aujourd'hui des enfants est très complexe. Et tout le monde a une part de responsabilité. Et je pense qu'il faut dépasser ce stade de discussion et chercher à incriminer quelqu'un en particulier. Le mieux, c'est quoi ? C'est de faire un état des lieux, un constat, le plus juste possible, bien entendu, ensuite apporter des solutions. Parce qu'on n'aura pas réglé le problème quand on aura trouvé le premier responsable, parce que bon, ce qui est fait est fait. Et à mon avis, aujourd'hui, les plus gros problèmes que nous avons avec la jeunesse sont des problèmes qui sont dus non pas au fait que les parents sont analphabètes ou ils n'ont pas reçu d'éducation, mais c'est parce que les enfants vivent dans un milieu un milieu qui propice à quoi ? Qui propice à développer des maladies du comportement qui sont le propre de ce siècle. Et il n'y a plus de frontières, hein. Il y a la mondialisation d'un type de conception de la vie et des comportements qui fait qu'aujourd'hui, même si vous avez des parents qui sont des intellectuels et qui ont tous les moyens pour éduquer leur enfant, ils sont dépassés. Ils sont dépassés à cause de quoi ? À cause justement du milieu. Le milieu joue beaucoup, hein. Et ça va dans ce sens, hein, le hadith qui parle de celui qui a tué 99 personnes. Et à la fin, il lui a été conseillé de quoi ? De quitter ce milieu pour aller quoi ? Pour aller dans un endroit où on peut évoluer parce que le milieu est... Donc je pense que on a un gros problème de société avant tout. Bon, maintenant, on va pas se déresponsabiliser en tant que parents, on va faire les efforts, on va d'abord parler de nos problèmes d'éducation, et on va essayer d'apporter des solutions et des réponses qui sont concrètes, qui vont permettre aux parents de limiter les dégâts.
Inch'Allah.
Si on n'arrive pas à atteindre tous nos objectifs, au moins on limite les dégâts. Et c'est possible, hein, il faut pas désespérer, il faut pas faire du catastrophisme. Hein. Tout est possible parce que Dieu nous a demandé justement de lui obéir et d'éduquer nos enfants comme il se doit, quelle que soit l'époque, quel que soit le milieu. Ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est être averti. Car un parent averti en vaut deux.
Barakallahu fik Hassan, on s'opère une petite pause, on se retrouve après hein, pour continuer sur la thématique. On rappelle les coordonnées, hein, 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00, à partir de 21h, vous pourrez inch'Allah poser vos questions. Assalamu alaikum. De retour sur les ondes de Pastel FM, 21h05, on a une personne, un auditeur qui voudrait intervenir pour réagir sur le premier sujet. Oui, allô.
Allô, bonsoir.
Bonsoir,
Mahli Ahmed, une petite parenthèse avant que je vous pose une question. Je reviens un petit peu sur le voile parce que j'ai senti que ma mère, elle est concernée. Je suis en difficulté, donc je lui fais appel parce que c'est une femme voilée. Mais c'est pas mon appel. Moi, je me débrouille, je suis un homme, je vais me débrouiller. Je suis musulman, c'est vrai. Mais tout ce que touche un musulman, et comme je suis, j'ai acquis la nationalité de ce pays, alors, ça m'a tellement touché que la halle, ou je sais pas, tout à l'heure vous parlez d'un sujet que des... Ma mère qui vient, par exemple, demander un soutien, qu'on lui demande d'enlever son voile. Alors, ma réaction, parce que moi je suis sous pression, après je vous pose la question, Ahmed, pour que je sois cohérent par rapport à certains. Alors, pardonnez-moi, ma question... par rapport à ce système qui est laïcard, pourquoi ils nous font croire que l'islam, j'ai un soutien, sincèrement, il y a des gens qui s'engagent, j'ai honte même de parler maintenant, ils ont le courage de porter ça, moi je suis caché, et que des êtres humains qui sont en train de les humilier, et nous on est en train de défendre la république de Babanière, pardonnez-moi, pour être un peu vulgaire, pourquoi ils sont en train d'humilier, même en dehors des instances, par exemple au collège ou à l'école, pourquoi ils humilient nos mères? Voilà, je ne vais pas parler d'autre chose parce qu'ils vont croire. La question de l'éducation. Alors, pardonnez-moi, ça vient de l'extérieur. Ma réaction, c'est que qu'actuellement, je suis sous pression à cause de la femme, entre guillemets. Pourquoi ils font pas la même chose avec Hachak, des femmes qui sont en train de faire n'importe quoi, et qu'une musulmane, lorsqu'elle choisit ça, de porter ce qu'elle veut, pourquoi on est en train, c'est nos mères. Alors, de grâce, Ahmed, ma question n'est pas claire, mais on est là pour vous soutenir, vous avez un bon courage, et sincèrement, je vous le jure sur la tête de mon père et ma mère, on ne vous trahira jamais, parce que ce pays-là, qui reconnaît aux musulmans le droit de cité, ou bien il ne faut pas non plus qu'ils jouent sur le délit de faciès.
Donc la question en gros, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attaque comme ça au voile? Pourquoi spécifiquement au voile?
Parce que je crois qu'on est trop patient.
D'accord.
Et lorsque, pardonnez-moi, parce que lorsqu'il y en a parmi nous qui devient violent, on les traite de deux. Moi, je ne défends pas les terroristes, je le dis tel que je le crois.
D'accord, on s'écarte un peu de la question, mais on a bien, en gros, vous soutenez donc la démarche qui a été faite, vous condamnez toutes les formes de discrimination, notamment par rapport au voile. Et la question, donc, on va demander à Hassan d'intervenir par rapport à votre remarque. Pourquoi est-ce que spécifiquement on s'attarde sur les femmes voilées?
Barakallahu voilà. Alaikum. Et je vous soutiens, pardonnez-moi, parce que ma smahli Allah rahmbok, le basara ou le basar. Avant que l'œil voit, si on perd la clairvoyance, le regard c'est trop tard. Alors on les prévient, on est 1,5 milliard de musulmans, ils vont pas nous faire peur. Alors de grâce, on a assez supporté pour les gens de cette année, ils sont là, mais les clairvoyants parmi les musulmans, on n'a pas peur de point barre.
Et merci pour votre intervention.
Voilà, j'ajoute un truc. Adam était musulman, c'est né Adam. Donc ça, on peut le prouver. Donc de grâce, ils n'ont pas peur de l'islam. L'islam, c'est une civilisation éclairante. De grâce qu'ils foutent la paix.
D'accord.
Comme ça, on leur foutra la paix. Parce que si parmi nous, les modérés, ce qu'ils entendent, s'énervent, lorsqu'on déclare la guerre...
Il n'y a pas de raison à ce qu'on s'énerve. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre société est une société de droit. C'est dans notre droit donc d'être musulman. Et je pense que personne ne nous a retiré ou ne retirera ce droit. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se faire respecter en faisant faire valoir justement nos droits. Et puis, il y a des tribunaux, il faut porter plainte, comme on l'a dit. Et il n'y a pas de raison à ce qu'on s'énerve ou à ce qu'on essaie de réagir de la même façon. On reste posé, on reste, alhamdoulilah, zen, sage. Dans quoi? Dans les limites des droits. Juste une petite remarque, quand tu jures, mon frère, ne jure pas sur ta tête ou celle de ta mère ou de ton père, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, celui qui jure par autre que Dieu a commis un péché. Donc c'est un petit péché, il faut vite dire astaghfirullah ou dire la ilaha illallah. Les prochaines fois que tu jures, tu dis wallah ou billah ou tallah, ou tu jures sur le Coran, mais pas sur une créature de Dieu, même la Kaaba ou la tête de la personne qui t'est la plus chère. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il ne faut pas toujours se lamenter sur son sort. Pourquoi se sentir toujours victime? Moi, je pense qu'il faut agir de manière intelligente. Et comme tu l'as dit, il faut soutenir toutes les bonnes actions. À travers quoi? À travers des coups de fil, comme vous le faites. La FAL, c'est une association qui reçoit des subventions de la mairie.
De la mairie, oui.
C'est ça, donc c'est l'argent public, c'est notre argent. Donc il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec les différentes administrations pour rappeler qu'il faudrait quand même que notre argent ne soit pas utilisé contre nos mères, contre nos épouses ou contre nos filles. Et les femmes sont assez grandes pour se défendre, n'ayez crainte.
Deux questions en rapport avec le thème qui ont été posées hors antenne. Donc une sœur a appelé, donc elle a demandé est-ce que je pose la question. Une question par rapport à l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il est autorisé en islam d'avoir un moyen de contraception pour la femme qu'elle garde définitivement? C'est-à-dire pour les femmes qui décident, par exemple, d'avoir un certain nombre d'enfants, une fois qu'elles n'en veulent plus ou qu'elles ne peuvent plus, d'avoir un moyen de contraception jusqu'à ce qu'elles soient... voilà. Deuxième question de cette même dame. Elle demande si c'est très commun d'offrir un petit nounours aux enfants, ce que en France on appelle un doudou. C'est un petit nounours ou quelque chose, un chiffon, une odeur, qui agit de façon importante chez l'enfant pour qu'il dorme avec tout le temps. La sœur demande est-ce qu'on peut considérer ça comme shirk ou bien est-ce que c'est toléré?
D'accord. Donc en ce qui concerne la première, donc c'est une question qui a rapport avec le planning familial. Vous faites le nombre d'enfants que vous voulez. Plus vous en faites, plus votre prophète sera fier et satisfait de vous. Et plus vous aussi, vous serez fier et satisfait de vos enfants. Les enfants sont notre raison d'être, notre raison de vivre. Ce sont eux qui nous apportent du bonheur au quotidien. Ce sont eux, Inch'Allah, la fin de notre vie qui nous accompagneront. Vous ne pouvez pas vous imaginer la tristesse des gens qui n'ont pas d'enfants et qui en voudraient. Vous ne pouvez pas non plus vous imaginer la tristesse des personnes âgées qui se retrouvent seules, sans enfants, ou qui ont des enfants ingrats, qui n'ont même pas le souci de prendre des nouvelles de leurs parents, de les accompagner dans les moments difficiles. Donc, à vous de faire des enfants, de bien les éduquer, c'est un investissement spirituel, c'est une manière sur terre de vivre une part du bonheur que l'on vivra dans l'au-delà, lorsqu'on sera au paradis avec nos épouses, avec nos enfants. Maintenant, chacun fait le nombre d'enfants qu'il veut en fonction de ses capacités, de ses moyens, etc. Mais les moyens de contraception sont autorisés, parce que si vous ne prenez pas des moyens de contraception, et que vous avez des rapports sexuels réguliers, vous allez avoir des enfants tous les ans, normalement. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes capable d'avoir... 25 ans de vie de femme fertile, avoir 25 enfants. En tout cas, si vous y arrivez, vous êtes capable, Allah y barque. C'est pas du tout une honte que d'avoir 10, 15, 20 enfants. Ça existait aujourd'hui, c'est plus dans nos mœurs, dans nos coutumes, peut-être même dans nos capacités, dans nos possibilités. Mais ne tournez pas en dérision les familles nombreuses, hein, le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Ensuite, la deuxième question, c'était oui, de doudou là. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec le shirk. Il faut pas avoir du shirk partout. On a aidé comme le shirk est clair et évident. Et le problème de ces petits objets, c'est quoi? C'est la dépendance que vous créez chez l'enfant. Donc, est-ce que ça a des effets négatifs sur votre enfant? Il faut voir avec les pédopsychiatres ou les spécialistes, hein, chacun pourra vous apporter une réponse. Moi je pense que si moins on crée de dépendance chez l'enfant, mieux c'est. Hein, si l'enfant peut se passer de toutes ces formes de dépendance, tant mieux. Il y a beaucoup de parents, l'enfant quand il est bébé, on lui met une tétine dans la bouche. C'est une bonne façon de le faire taire, c'est ça, d'occuper ses cordes vocales, sa bouche. Et parfois, ça a un effet pervers. Si l'enfant, il n'a pas sa tétine, il dort pas. D'accord? Et ça a même des effets aussi négatifs. Il paraît sur le palais, les dents. Avec certains, ça marche très bien. Mmh. Ouais, c'est des questions, à mon avis, qui sont plus du domaine qu'il faut poser aux médecins, aux pédiatres. Et puis, c'est aussi une question d'expérience. Moi, j'ai élevé mes enfants sans tétine. Ça ne les a pas déstabilisés. Ils sont normaux, alhamdoulilah. Et sans doudou. D'accord? Sans nounou, ce n'est rien du tout. Ils ont eu autre chose. Maintenant, si certains parents ne peuvent pas faire sans, ben, d'ailleurs, tout ce que je veux, moi, c'est que cet enfant, il soit bien dans sa peau. Mais ne créez pas des besoins qui n'ont pas lieu d'exister.
Il ne faut pas que ça devienne la norme, comme ça.
Pas que ça devienne la norme, et puis, si c'est pas nécessaire, on t'en s'en passer. Si on se souviendrait toujours d'un gosse dans la famille, s'il n'avait pas sa chaussette, son doudou c'était une chaussette. S'il n'avait pas, c'était le scandale. C'est l'enfant.
Exactement.
Et parfois, il fallait retourner toute la maison pour la trouver. Et si vous aviez le malheur d'être invité chez quelqu'un et que vous quittez vos hôtes et vous rentrez chez vous, vous avez oublié, vous faites demi-tour.
Ouais.
Ah oui, parce que l'enfant, s'il n'a pas sa chaussette, j'ai même vu, d'ailleurs, c'est un truc qu'on voit chaque fois en début d'année scolaire, lorsque les parents accompagnent les enfants en maternelle. C'est pas la maternelle, j'ai vu même en primaire, hein, l'enfant, le premier jour, le deuxième, il va à l'école avec quoi? Avec son petit oreiller. L'autre, il va à l'école avec son...
Bien sûr, en maternelle, c'est pour... Hein.
Oui, la maternelle encore, bon, je peux trouver des explications, l'enfant, il a encore... Mais non, moi, j'ai vu ça pour des gosses qui sont montés un cran au-dessus. Il y a même, bon, ça sont des cas exceptionnels, des adolescents qui n'arrivent pas à se sevrer. Hein? adolescents, ils gardent encore ces habitudes, ces tics, ou je sais pas comment on les appelle. Ouais. Donc, à vous de gérer, hein, à vous d'éduquer vos enfants de la meilleure façon. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de relativité. Hein.
C'est, bien sûr.
C'est subjectif, il n'y a pas d'objectivité. Chacun va essayer de faire de la meilleure façon. Et la meilleure façon pour vous, ce n'est pas toujours la meilleure pour moi.
Alors, comme ça, oui, Hassan, il y a une phrase qui revient souvent dans toutes les familles. C'est « à un tel, ils ont réussi ». Alors souvent, tu as parlé tout à l'heure, Didier, de l'aspect matériel, le fait d'avoir une cravate, d'avoir une belle voiture et une maison, et j'allais dire un chien pour exagérer, mais il a réussi. Alors concrètement, pour un père musulman, pour une mère musulmane, son fils, tout le monde n'apprendra pas le Coran par cœur.
Oui. Mais tout le monde ne sera pas médecin, tout le monde ne sera pas médecin.
Quel est le minimum qui nous permet de dire, d'un point de vue islamique, il a réussi?
Alors, le minimum, c'est que cet enfant soit bien dans sa peau. C'est qu'il soit équilibré. C'est qu'il ait été satisfait. Que ce soit au niveau intellectuel, niveau psychologique, sentimental, physique. Équilibre. C'est ça la réussite. Maintenant, chaque enfant est prédestiné. Ça, il ne faut pas l'omettre. Sinon, vous allez tomber dans quoi? Vous allez tomber dans une comparaison qui est très dangereuse. Vous allez comparer vos enfants avec les enfants des autres. Et vous allez imposer à vos enfants des rythmes qu'ils ne peuvent pas supporter parce que justement ils n'ont pas les capacités qu'ont les autres ou tout simplement ils sont pas dans le même milieu parce que si cet enfant réussit c'est pas seulement parce qu'il a des capacités, c'est parce qu'il est dans une ambiance, il a des moyens qui lui permettent d'évoluer plus que d'autres. Donc la vraie réussite, c'est que nous parents nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir. Pourquoi? Pour les rendre épanouis. Pour qu'ils soient épanouis. Ensuite, si notre enfant trouve son équilibre dans tel ou tel domaine qui correspond à mes goûts et à mes couleurs, moi parent, ou tout simplement à mes souhaits, à mes rêves, je n'ai pas à me préoccuper. D'accord? Parce que justement, c'est là où c'est très difficile pour les parents. Il faut avoir du recul et relativiser. Nous, on a tendance à croire qu'on sait tout en tant que parents, qu'on a toujours raison, qu'on comprend tout, et qu'on veut le bien de nos enfants, et que lorsque nos enfants réagissent, discutent, parce qu'ils grandissent à un moment donné, hein, ils raisonnent, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que tu dois faire, et tu comprends pas, tu comprendras plus tard. Ok, moi je veux ton bien, toi tu dois m'écouter au doigt et à l'œil. Même si ce qu'on dit n'a pas de sens et l'enfant peut le démonter en deux secondes, on a tendance à quoi? On a tendance à prendre nos enfants pour des robots qu'on veut téléguider. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que de deux choses une autre, soit on va le pousser à la révolte, la rébellion totale, donc il est en prison, il faut qu'il sauve, faut qu'il se déchaîne, ou soit nous allons le pousser à être un hypocrite, un schizophrène. Il va tout faire pour nous faire plaisir, il est en train de se détruire. Il va tout faire pour nous faire plaisir quand on est présent, et dès qu'on tourne le dos, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est pas ça le but de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est de pousser notre enfant à être quoi? À être équilibré, à être bien dans sa peau. Donc, en ce qui concerne par exemple le domaine religieux, il ne faut jamais, mais alors là, jamais, jamais, croire que nos enfants, sans regarder les enfants des autres, hein, que nos enfants, quand on en a 4, 5, 6, 7, 8, auront tous la même piété, auront tous le même niveau de connaissance et auront tous la même ferveur. Ça n'a pas de sens. Hein, c'est bon. Ça doit exister, mais ce sont des exceptions. Hein. La règle, c'est quoi? Ben, c'est que chacun, subhanallah, a une route qu'il va emprunter, qui est parfois un peu différente de celle de son frère, bien qu'on ait eu les mêmes parents, le même milieu. Donc, l'uniformisme n'existe pas et ne doit pas exister, hein, dans l'éducation. Hein. Chaque enfant a une route que Dieu lui trace, avant tout. Et dans cette route, cet enfant est capable d'évoluer. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se préoccuper non plus. On se fait parfois plus de soucis qu'il nous faut, nous les parents. Hein, il y a un excès de, comme je vous ai dit, de volonté de protéger. Hein, c'est de la surprotection et ça a l'effet inverse.
De la protection rapprochée.
Oh oui, plus que la protection rapprochée. On va même jusqu'à entrer dans leur coin, dans leur esprit, et à le manipuler, à le contrôler, à leur dire, ne pensez plus, c'est nous qui allons penser à
votre place.
Et c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est l'accompagner pour qu'ils deviennent responsables, pour qu'ils deviennent adultes. Pour ça, il faut lui donner la chance, la possibilité de rester lui-même et d'être lui-même. Il faut juste le corriger, rectifier et lui mettre l'eau à la bouche. D'accord ? Pour qu'il tende vers quoi ? Vers des horizons qui sont positifs.
Sur l'éducation religieuse, parce qu'il y avait cette question a priori qui tendait vers ça, on sait quand même que chez les enfants, ça reste, hormis donner l'amour de Dieu, l'envie, la soif d'apprendre et de connaître, dans le meilleur des cas, et je pense que ça reste là, pour moi, la solution. Mais souvent, beaucoup de parents ont du mal aux enfants, quand ils arrivent à 7, 8 ans, il faut apprendre la prière, il faut commencer à prier, et on sait que, j'ai pas encore d'enfant de cet âge-là, mais ça va bientôt arriver. Mais c'est vrai que c'est la croix et la bannière pour si je peux me permettre cette expression, pour les parents. Fais des ablutions, fais ta prière, fais ci, fais ça, et c'est souvent vindicatif, et on sent que c'est et pourtant, ce qu'il faut le faire, ce qu'il faut insister, ou on les laisse, et ça, je pense que ça doit être la question de pas mal d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui.
D'accord, c'est une très bonne question, et effectivement c'est une question qui revient toujours de la part des parents. On fait une fixation sur quoi ? Sur certaines pratiques dans la religion, et on veut que nos enfants soient au top dans ce domaine-là. Et toujours, le problème des parents, c'est quoi ? C'est que on éduque nos enfants pas par rapport à ce qu'ils devraient assimiler, à ce qu'ils devraient, vers quoi ils devraient tendre, mais on les éduque par rapport à nous. On se prend comme des références et on se met au centre. Et ça, c'est très dangereux. Hein? Lorsqu'on se situe au centre, nous, les parents. Donc, c'est une gymnastique qui n'est pas facile. Il faut être capable de quoi ? Il faut être capable d'éduquer ses enfants sans être un fardeau. Il faut que l'enfant sente au niveau religieux que la religion c'est quelque chose qu'il respire hein, au quotidien sans difficulté. Nous, quand on parle de religion à nos enfants, quand on veut leur enseigner la religion, vous regarderez généralement avec notre visage, il change déjà. Il était souriant il y a 5 minutes, mais il n'est plus maintenant qu'on parle de religion. Notre comportement change, on devient dur, on devient strict, alors que dans d'autres domaines, on est plus cool, etc. Alors, est-ce parce que c'est si grave que cela ? Mais le plus grave, vous savez, c'est quoi ? Mais c'est que ça a l'effet inverse. Voilà. Force de vouloir leur transmettre la religion de cette manière, ben on pousse nos enfants à détester la religion ou tout simplement ne pas avoir envie de la pratiquer. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, comment il faut procéder ? Primo, il faut déjà être un modèle et un exemple. Ouais. Nos enfants ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, ils sont très très sensibles. Hein? Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, même ce que l'on ne fait pas, ce que l'on ne dit pas, ben, pour eux, c'est enregistré, c'est analysé. Ça a un impact. C'est clair, net et précis. Et l'éducation par le comportement, c'est la plus belle et la meilleure des éducations.
Il y a des parents qui sont tellement sages, tellement pieux,
tellement intelligents, qu'ils ne parlent presque pas de religion à leur enfant. Mais ils vivent la religion et leur enfant apprécie justement cette religiosité de leurs parents. Si nous étions de bons et de vrais religieux, nos enfants nous aduleraient. Alors imaginez-vous cet enfant qui a un père, allez, on va parler, il faut rester dans l'actualité, une star du foot, ok. Ben, regardez son enfant, il adore le foot et il veut ressembler à son père, et son père c'est une idole pour lui. Ben, si nous étions, nous déjà, en tant que parents, de bons religieux, croyez-moi que La religion a un impact positif sur nos enfants. Mais imaginez-vous ces enfants qui voient leur père, qui a un comportement exécrable avec leur mère. D'accord ? Et cinq minutes après, il leur dit, Dieu a dit, le prophète a dit, l'enfant n'est pas bête. On va tout de suite lui dire, bah, papa, Dieu il a dit qu'il fallait insulter son épouse. S'il ne le dit pas maintenant, parce qu'il a peur, il te le dira plus tard quand il sera grand. Et vous verriez le nombre d'enfants qui sont pas attirés par la religion, à cause de quoi ? À cause du comportement. De qui ? Du patriarche à la maison. Donc, le comportement, il faut que cette religion se sente, se voit, s'entende, à travers quoi ? À travers notre vécu, pour que l'enfant s'en imprègne de manière naturelle. Hein ? L'enfant qui voit son père quand il parle avec douceur, avec sagesse, hein, doucement. Il n'ose pas le ton, il n'insulte pas, il n'est pas désobligeant. Il copie tel père, tel fils. C'est comme ça. Et on le voit très bien. On voit les parents qui sont des nerveux, bah, ils transmettent leur nervosité à leur enfant. Hein, les parents coléreux, bah, transmettent ce mauvais comportement à leur enfant. Donc, le comportement. Par exemple, la prière. Mais il faut être assidu, la prière. Et on voit, subhanallah, les bébés, là, maintenant, deux ans, quand ils commencent à marcher. Quand ils voient leurs parents prier, ben, ils se mettent et ils font à côté. Ils font la même chose qu'eux. Par réflexe. Hein, l'enfant copie sur les parents. T'as même pas besoin de lui dire, quand il aime ses parents, il fait tout ce que les parents font par amour. Et c'est ça le plus dur à mon avis. C'est d'abord de se faire aimer par ses enfants. Hein? Avant de leur parler de religion, il faudrait d'abord que nous ayons de la place dans leur cœur. Hein? Parce que quand quelqu'un aime, il fait sans compter. Il donne sans compter. Quand nos enfants nous aiment, ben ils font tout pour nous faire plaisir. Et puisqu'ils savent que la religion a une place importante dans notre cœur, automatiquement, elle aura de la place importante dans leur cœur. Ne serait-ce que par amour pour leurs parents. Après, ça deviendra quelque chose de sincère qui va émaner de leur fort intérieur, mais dans un premier temps, ça ne sera pas considéré comme une punition, la religion. Hein? Comme une restriction, comme un fardeau. D'accord ? Donc c'est très important, on se fait aimer. Deuxièmement, si tu veux te faire obéir, ne demande pas l'impossible. Hein? Non, on n'arrive pas à doser avec nos enfants. On a tendance à quoi ? À leur demander des choses à certains moments ou à une période de leur vie qu'il ne faut pas demander. Pourquoi ? Parce que c'est pas le moment. Pour ça, il faut respecter l'évolution et la maturité de cet enfant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, qu'est-ce qu'il instaure dans cette famille ? Il instaure la douceur. Hein ? Tout se fait dans la douceur. Tout se fait dans la tendresse, dans le calme. Il n'y a pas de violence, hein, physique ou verbale. À l'inverse, lorsque Dieu ne veut pas du bien d'une famille, parce qu'il ne le mérite pas, qu'est-ce qu'il met ? Il met le contraire, c'est-à-dire la violence. Et utiliser la violence dans la religion, c'est la solution la plus sûre. Pourquoi ? Pour écœurer les gens de la religion. D'accord ? Donc on n'utilise pas de violence. Qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise l'amour, on utilise l'exemple, on utilise la douceur, et on utilise quoi ? La patience. On change pas les gens du jour au lendemain. Oui ? Et la prière en particulier, c'est pas une chose facile, même pour nous les adultes. Alors, pour les enfants, c'est 10 fois plus difficile. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Hein? Il faut y aller progressivement. Et puis, dans un premier temps, les enfants, généralement, ils font les choses avec quoi ? Avec beaucoup d'amusement. Et c'est naturel, c'est leur niveau, c'est leur âge. Donc il faut savoir fermer les yeux. D'accord ? Et les enfants s'amusent, et les enfants ou même ont tendance à mentir à un moment donné. Ils mentent beaucoup ou ils aiment montrer une image qui est autre que leur personne pour faire plaisir généralement. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et à mon avis, si l'enfant est épanoui dans sa famille, s'il a de bons repères, hein, si ses parents sont à la hauteur, s'ils sont des modèles et des exemples, vous verrez que toutes ces notions religieuses vont faire partie intégrante de sa personnalité. Il va grandir avec de manière naturelle.
On a une question qu'on va prendre, Inch'Allah. Oui, allô ?
Un auditeur.
D'un auditeur, bien sûr. Oui, allô ?
Allô ?
Allô ? On vous écoute. On a la personne, Hamza ? Oui, allô ? On va continuer, peut-être qu'on...
Oui, on va Inch'Allah le récupérer, en fait.
On a dû le perdre, donc c'est pas trop grave. Hazan, je te propose une petite pause, il est 21h33, on va reprendre dans 5 minutes, donc cet auditeur va poser sa question et intervenir. On privilégie bien sûr le direct qui le rappelle, Inch'Allah. On se retrouve dans quelques minutes.
Après 21h passé de 38 minutes...
De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 21h passé de 38 minutes. On était sur la question de l'éducation des enfants. C'est vrai que c'est une question très vaste, le sujet, je pense qu'il pourrait prendre une année, voire peut-être même 2 ans, en parlant tous les vendredis. On reste, Inch'Allah, sur l'éducation religieuse, voir un peu, enfin en tout cas, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention tes conseils, Hassan. On va rester sur cela et nous donner un peu des petites clés aux parents qui
tout
sont...
Tout à fait, une petite expérience.
Une question, Hassan, excuse-moi avant que tu prennes la parole. Donc après arrive l'adolescence, une période particulièrement complexe et difficile. Que penser des parents qui donnent plus de liberté aux garçons en matière de sortie, en matière d'autorité que les filles?
Je ne suis pas tout à fait d'accord, Hamza, avec cette idée que l'adolescence est une période difficile. Je connais des familles qui ont des adolescents, il n'y a aucune difficulté, tout se passe très bien. Personnellement, j'ai pas eu de différence entre mes enfants quand ils sont passés de l'âge enfant, adulte, adolescent. Alhamdoulilah, c'est pour cela, c'est pas une règle. Et puis après, c'est l'adolescence n'est que le fruit de l'éducation que l'enfant a reçu avant. D'accord ? Si le travail il a été bien fait dès le début, l'adolescence c'est une continuité, tout simplement. D'accord ? Donc faut pas que les parents soient déjà psychologiquement freinés dans leur élan éducatif en croyant qu'arrivés à l'adolescence, ils vont perdre le nord et que ça va être le conflit. C'est pas vrai. Hein, soyez bien dans votre peau, continuez à éduquer vos enfants de manière tout à fait normale en tenant compte de l'évolution de l'enfant. Hein. Le danger c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de dialogue. Voilà. C'est là où justement cet adolescent qui est en train de devenir un adulte ne trouve plus ses parents à la hauteur. Qui malheureusement, beaucoup de parents, c'est avec leur enfant le monologue, c'est pas le dialogue. Ils ont pas pris conscience que cet enfant, il est devenu un adulte et qu'il a besoin de quoi? Il a besoin d'être convaincu avant d'agir et qu'il est capable de voir les choses autrement. Donc il faut quoi? Il faut dialoguer. Il faut prendre et donner. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe? L'enfant il sait de quoi? Il sait de trouver ce qu'il trouve pas chez ses parents ailleurs. Et c'est là où naît le conflit. Si le dialogue est instauré dès le début, si l'échange fait partie du naturel chez les enfants et les parents, il n'y a pas de raison. Donc cette histoire de liberté avec les enfants, alors il est évident que des parents normalement constitués mettent des limites à leurs enfants. Ouais. Et l'objectif, c'est justement d'accompagner les enfants en leur montrant qu'il y a des limites sur Terre. Ok, en leur montrant aussi le pourquoi, faut leur expliquer, parce qu'une fois qu'ils sont convaincus, ils ne vont pas transgresser ces limites, et ne pas faire de différence entre eux, ces enfants. Nous sommes responsables de la même manière de nos enfants, qu'ils soient sexe masculin ou sexe féminin. Hein, cette discrimination, entre guillemets, positive, qui fait que le garçon, il a tous les droits, même les droits de se faire du mal, d'accord, est à condamner. Ce qui est interdit pour l'un l'est pour l'autre, et ce qui est obligatoire pour l'un l'est pour l'autre. Et d'ailleurs, cette conception de l'éducation a montré qu'elle a eu des conséquences très 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 négatives sur qui, justement, sur ceux qui étaient censés être privilégiés. Les statistiques sont là pour le prouver. Les filles réussissent plus à l'école que beaucoup de garçons qui, eux, n'ont pas eu le temps d'étudier parce qu'ils étaient occupés. Ils étaient occupés à l'extérieur à faire tout sauf ce qu'ils devaient faire.
Trop de liberté tue la liberté.
La tue, ça tue la personne. Hein? Quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a des limites, ben qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse. Et la transgression ne peut qu'être condamnée. On le voit, subhanallah. Hein. Si vous prenez les méfaits de la drogue, de la toxicomanie, chez les garçons, elle est plus importante que chez les filles.
Mmh.
Mmh. Hein, la délinquance masculine est plus importante que la délinquance féminine. Une des raisons essentielles, c'est quoi? C'est que justement les parents se sont trompés. Alors, j'ai envie de dire tant mieux pour les filles, elles ont été préservées grâce à cette injustice, grâce à cette erreur des parents. Donc les filles, dans votre malheur, il y a quoi? Il y a un bonheur. Mais il ne faut pas reproduire ce schéma, parce qu'il est catastrophique pour les garçons. Parce que ces filles-là, bien éduquées, qui ont été préservées, qu'on a frustrées avec des interdits, ce qui a donné justement pas mal de résultats positifs, mais demain elles vont faire quoi? Elles vont épouser qui? Elles vont épouser des frères de leurs copines qui, eux, n'ont pas eu de limites et qui sont dans des états pitoyables. Donc, c'est pas une approche intelligente. D'ailleurs, pour appuyer cela, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Il dit: celui qui a trois filles et qui les éduque comme il se doit, et une version du hadith qui dit qu'il ne fait pas de différence avec ses garçons, parce que la différence existait. Donc celui qui a des filles, qui les éduque comme il se doit, et qui est juste, d'accord, ses filles seront une protection pour lui dans l'au-delà. Il n'ira pas en enfer, Dieu le mettra au paradis parce qu'il a assumé sa responsabilité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ses filles, qui étaient considérées comme des biens matériels à cette époque-là. Donc le hadith insiste bien, tu les éduques. Une autre version du hadith parle de celui qui a trois sœurs, ouais, mm-hmm. et qui prend bien soin de ses sœurs, hein, qui est juste avec elles et qui les accompagne, ouais, qui leur permet justement d'être épanouis. Mais celui-là aussi, il gagnera le paradis, il évitera d'aller en enfer parce qu'il a été correct avec ses proches, qui sont ses sœurs. Donc, à prohiber, à condamner, le Coran, dans les interdits, fait pas de différence entre les hommes et les femmes, et dans les obligations non plus. D'accord? Donc, l'essentiel dans l'éducation, pour revenir quand même à Al-Qadr, pour terminer, pour la question là qui revient toujours, la prière, il n'y a pas que la prière hein, dans l'éducation religieuse des enfants. La prière est un pilier, mais il y a d'autres volets. Et à mon avis, avant la prière, quelque chose de plus important, c'est qu'il faut éduquer cet enfant à l'amour de Dieu et à la crainte de Dieu. C'est plus important. Je vous l'ai dit, quand quelqu'un aime, il fait sans rechigner, sans compter. Alors, comment inculquer l'amour de Dieu à nos enfants? Il faut leur parler. Dès qu'ils entendent, dès qu'ils voient, dès qu'ils ressentent, dès qu'ils comprennent de Dieu. Comment leur parler de Dieu? Leur parler de Dieu à travers sa création. Voilà, c'est fondamental, c'est important. C'est la méthode coranique. Regardez les centaines, ils sont à peu près à 2000 versets qui parlent de quoi? De la création, qui nous invitent à contempler la création. Donc vos enfants, habituez-les, accompagnez-les, hein, soyez à leur côté quand ils sont en bas âge. Pourquoi? Pour admirer la création. Par exemple, la télévision, je vous conseille de ne faire regarder à vos enfants que toutes les émissions qui ont trait à la nature. Ils n'ont pas besoin, en bas âge, de regarder des dessins animés, ni de regarder des films, ni de regarder des vidéos, clips, etc. Ils n'ont pas besoin. Ok? Par contre, si dès ce plus jeune âge, vous les mettez de temps en temps devant la télé, vous leur faites visionner les cassettes ou en direct quand ça existe, et ça existe d'ailleurs, des émissions sur le monde animal, hein, sur quand ils grandiront un peu plus sur le monde céleste, le monde végétal, etc. Ben, ils vont prendre l'habitude déjà de regarder ce genre d'émissions. Ils vont y trouver du plaisir. Et en plus, vous, vous les accompagnez parce que ce sont des émissions laïques. D'accord? On ne parle pas de Dieu. On parle de la nature. Et vous les accompagnez, vous dites voilà. Hein, ça, Allahu Akbar, c'est Dieu qui a créé ça. Vous faites le commentaire. D'accord? Et après, vous leur parlez de cela. Et ce qui est bien, c'est regarder comment il faut transmettre la aqida. Vous transmettez la croyance en Dieu, déjà avec la proximité. Essayez de toujours trouver une demi-heure, une heure par jour, et vous mettez vos enfants à côté de vous, proches de vous. Les enfants aiment bien être proches de leurs parents, parce qu'ils les aiment bien, et les parents sont source de protection, sont source de repos pour les enfants. Donc, la proximité, et dans cette proximité, vous leur transmettez ce qu'il y a de plus important. Regardez, l'amour de Dieu, ils vont l'assimiler avec l'amour des parents. Hein? Les deux vont de pair. Hein? Et c'est vrai, si on apprend à nos enfants que Dieu est au centre, comme le père est au centre, comme la mère est au centre, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire en grandissant? Ils vont remettre chacun à sa place déjà. Et puis, Dieu et les parents seront dans leur cœur et au centre de leurs préoccupations, au centre de leurs sentiments. Et la hadith va dans ce sens, hein. Adorer Dieu et respecter les parents. Celui qui désobéit à Dieu désobéit celui qui désobéit à ses parents désobéit à Dieu. Celui qui n'a pas la satisfaction de ses parents n'entrera pas dans le paradis de Dieu, etc. Hein, donc c'est très important. Et si vos enfants rechignent au début, c'est pas grave, patientez, essayez toujours de désamorcer, habituez-les à ça et vous verrez. Nous, le danger, c'est quoi? C'est que quand on leur apprend la religion, quand on leur demande de pratiquer la religion, cette religion est toujours synonyme d'obligation. Ouais. Il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas du plaisir. L'enfant n'est pas épanoui dans notre religieux qu'on essaie de lui inculquer. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend mal. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin. Croyez-moi, il ne mourra pas votre enfant. Il y a des gens, vous savez, qui vivent sans télé, ils sont normaux, alhamdoulilah, ils sont épanouis. Maintenant, vous, essayez d'utiliser cette machine qui est extraordinaire. Pourquoi? Pour justement rapprocher vos enfants de l'essentiel qui est de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et vous verrez. Plus il aimera Dieu, plus il trouvera de la facilité, du plaisir à quoi. Et en plus, Dieu va l'aider. Nous, on croit toujours que nous allons faire les choses et les choses se feront grâce à nous. C'est faux. Rien ne se fera sans la volonté de Dieu. Et Dieu, il sait ce qu'on a dans le cœur, il connaît nos intentions. Ouais. Si tous les soirs, ou tous les deux jours, on prend le temps de parler de Dieu à nos enfants, croyez-moi que Dieu Il va mettre dans le cœur de nos enfants l'amour de son adoration et de sa pratique.
Hein? D'ailleurs, il existe beaucoup d'outils pédagogiques aujourd'hui, oui. Justement, pour des bandes dessinées, pour les enfants qui parlent justement de la création de Dieu.
Oui, oui, oui.
On trouve des CD, des DVD.
Oui,
qui sont...
même des dessins animés, voilà. Qui sont très exactement, bien faits, oui. Qui sont magnifiques. Il faut juste les islamiser un peu en accompagnant votre enfant. Quand il regarde pour lui dire oui, ça, regarde, c'est Allah qui a créé ça. Heureusement qu'il a fait les choses comme ça, parce que si c'était pas fait comme ça, voilà, voilà, voilà. Donc, mais je dis, la religion ne s'enseigne pas à nos enfants dans la posture habituelle. C'est le prof qui dicte aux élèves ce qu'ils doivent faire. C'est pas ça. La religion s'enseigne avec amour. Par amour. Ouais. À travers quoi? À travers le vécu. Pas à travers la théorie. Ouais. Parce qu'il y a des parents, ils prennent leur enfant, ils le déposent à la mosquée, c'est ça? Ils pensent que si l'imam leur parle ou leur enseigne des notions purement théoriques, c'est bon. Mais les musulmans, ils connaissent sa leçon par cœur. Vous lui faites une interro, il a 10 sur 10. C'est pas de la religion, ça. Ouais. Vous allez en faire quoi? Vous allez en faire des grosses têtes? D'accord. Vous allez en faire même des gens qui vont devenir des polémiqueurs, ouais, des disputeurs, parce qu'ils ont des connaissances, mais jamais vous en ferez des gens qui ont un cœur spirituel. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça s'enseigne la religion. Ça s'enseigne avec quoi? Avec, comme je l'ai dit, du vécu, avec des choses concrètes. Si vous lisez le Coran, vous verrez quand Dieu parle des croyants, il ne dit pas la croyance et puis deux points, c'est ceci, c'est cela. Lisez les versets, vous verrez. Dieu dit les croyants sont ceux qui font. Les croyants sont ceux qui font. Puis vous avez deux versets, ouais, qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de ce que c'est que la piété. Non, en fait, qui nous parlent de ce que ne sait pas. Ce que n'est pas la piété, en disant ne croyez pas que la piété c'est uniquement faire la prière et uniquement faire ceci ou cela. Attention, la piété c'est quelque chose de plus vaste. Mais quand Dieu nous parle des croyants, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les croyants sont ceux qui font. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Et regardez, les croyants sont ceux qui sont concentrés dans leur prière. Virgule, ceux qui tiennent leur langue. Vous avez vu la religion? Regardez, la prière et la langue, ils viennent au même niveau. On a le pilier de l'islam qui s'appelle la prière. On a le troisième pilier qui s'appelle la zakat. Et entre les deux, on a la langue. Donc si tu veux que ton enfant fasse la prière et la fasse bien, faut pas que tu lui parles de la prière uniquement. Faut que tu lui parles de comment il doit parler, la politesse, lui apprendre à bien parler, à bien s'exprimer. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son éducation spirituelle qui va faire de lui un bon prieur. Sinon Dieu aurait pas mis juste après la concentration dans la prière, tenir sa langue. Et lisez, vous allez voir. Après l'accomplissement de la prière, la langue, la zakat, Dieu nous parle de quoi? Du sexe. Ouais. Ceux qui sont chastes et vertueux. Le fait de l'éducation sexuelle fait partie de l'éducation religieuse de ton enfant. Et si tu lui parles de tout ça, de tous les domaines, ouais, tu rates pas une occasion. Quand il mange, ouais, Dieu est présent à table. Ouais. Quand tu es dans la rue, Dieu est présent, dans le lit, partout, tu verras que il va être en harmonie. Avec quoi? Avec son entourage, qui est devenu un entourage qui lui rappelle Dieu à chaque instant. Nous, l'enfant, Dieu, il ne le connaît et il ne le voit que dans les 5 prières, faqat, qu'il doit faire. En dehors de cela, et on le voit, subhanallah, beaucoup de gosses, on les voit à la mosquée, ils font la prière, c'est purement mécanique. Juste avant de faire la prière, il est en train de jouer avec son portable, en train de faire des jeux. Non, c'est ce qu'il est en train de faire juste avant la prière, en train d'envoyer un SMS à une copine. dans laquelle il lui dit des trucs, ou bien juste après la prière, il regarde une vidéo qu'il a enregistrée qui n'est pas regardée, subhanallah. Et pourtant, il accomplit une prière, mais une prière qui n'a pas été le fruit d'un enseignement, dans l'enseignement qui est global, qui est complet, dans l'enseignement dans lequel baigne la présence de Dieu. Ouais. Nous, cette prière, elle est purement mécanique. Et c'est pas bon, parce que l'enfant, il comprend pas pourquoi tu lui demandes de faire des gestes. Il n'y voit pas d'utilité et d'intérêt. Mais quand il sait que sans Dieu, il n'est rien, et qu'il a besoin de Dieu, c'est quoi des objectifs de la prière ? Vous n'avez pas remarqué, on doit se prosterner. La prosternation est synonyme de soumission. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant un être humain. Le fait de se prosterner, ça veut dire que tu es faible. Tu te rabaisses, mais tu ne peux pas aller plus bas que la prosternation. Hein? Il faudrait que la terre s'ouvre et que tu rentres dedans. Bon, la terre, elle ne s'ouvre pas. Donc, ça veut dire, tu viens de prouver, tu viens de montrer, tu viens d'exprimer ta faiblesse et ta nécessité. De quoi ? D'implorer Dieu. C'est ça qu'il faut enseigner à l'enfant. Et vous verrez que la prière, il va chercher à la faire de lui-même, parce que la vie est une galère. Donc, la prière devient chez lui une nécessité et un besoin. Ça ne devient pas un fardeau. Mais, comme je vous ai dit, ça, l'enseignement de la prière, ce n'est qu'un volet d'un enseignement qui est beaucoup plus général, beaucoup plus vaste, mais qui est complémentaire. Tout est lié. Ouais. Et en plus de tout cela, si l'enfant, dans sa maison, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, il y a une bonne ambiance, hein, une ambiance de paix, de paisibilité, d'amour, de fraternité, ça va passer. Ouais. Si ses parents crient sur lui sans arrêt, hein, ça crie. Ouais. Toutes les 5 minutes, ça crie. Parce que nos enfants, ils bougent, ils font des bêtises, etc. De manière de corriger, c'est quoi ? C'est toujours le cri, parfois, tu passes aux actes. Et tout d'un coup, tu fais une parenthèse et tu leur parles de prière. Ouais. Tu viens de crier sur tes enfants, il y a 2 minutes, parce que, je sais pas, ils ont dit n'importe quoi, ils ont crié sur la tapisserie, et après leur avoir crié dessus, après les avoir mis dans un état psychologique tu les as déstabilisés, tu leur as fait mal, juste après tu leur parles de prière. Ça marche pas.
Bien sûr.
Ça marche pas. Pour te faire obéir, il faut d'abord te faire aimer. Et ce que tu demandes à tes enfants de faire, tu dois leur demander dans une ambiance. Ouais? Dans une ambiance qui est positive. Mais si tu leur demandes dans une ambiance qui est négative, ça peut pas marcher. Mmh. Il y a un étant gosse, il vient de rentrer de l'école. Pour des raisons valables, hein, je suis pas en train de disculper nos enfants des bêtises qu'ils font, mais pour des raisons valables. Tu lui cries dessus, tu lui fais des réprimandes, des reproches. T'as fini ? Tu lui dis, bon, t'as fait ta prière ? Non, allez, vas-y, fais ta prière. Ben, cette prière que tu lui demandes de faire, vu l'état dans lequel tu l'as mis, elle devient synonyme de quoi ? Elle devient synonyme de malheur. Car généralement, elle vient juste après des coups qu'il a reçus, le pauvre. Hein. Donc, on doit être très très sage et très vigilant quand on enseigne et on transmet la religion à nos enfants.
Pour ces conseils, si tu avais des livres à recommander aux auditeurs traitant de la thématique, tu conseillerais quoi si...
Il y en a beaucoup, hein, de livres sur l'éducation, alhamdoulilah, des enfants maintenant. Il y a un très bon livre en 2 volumes de Cheikh Abdullah Nasih Ulwan qui s'appelle L'éducation des enfants en islam, et beaucoup d'autres au fur et à mesure de nos émissions, on les évoquera. Mais le plus beau des livres, c'est quoi ? C'est soi-même. Il faut que nos enfants voient à travers nous l'enseignement de la religion. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de faire des citations ou une texto. Il te suffira de t'exprimer à travers tes comportements et tes gestes, et tes enfants vont suivre de même.
Il est 22 heures passées de deux minutes. Vous restez sur les ondes de Pastel FM 99.4. Ça va avoir à faire, Inch'Allah, l'émission Safina, JMF, Tourcoing. Restez à l'antenne. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Quant à nous, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah.